Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à deux notions souvent confondues dans le monde du travail en France. L'invalidité et l'inaptitude.
Ah oui, c'est vrai que ça prête souvent à confusion.
Exactement. Ça sonne un peu pareil, mais en fait, ça vient de deux mondes différents. La sécurité sociale pour l'une, le code du travail pour l'autre. L'idée, c'est de clarifier tout ça.
Très bonne idée. Alors, si on commence par l'invalidité.
C'est un terme qui nous vient du Code de la Sécurité sociale.
D'accord.
Et le point clé, c'est que ça ne concerne pas la capacité à faire son travail actuel spécifiquement. Ça évalue plutôt la capacité générale d'une personne à, disons, à gagner sa vie par un travail. N'importe quel, en théorie.
Ah, d'accord. Donc, c'est plus large que juste le poste occupé. C'est une vision globale de la capacité à travailler et à avoir un revenu.
C'est tout à fait ça. L'évaluation, elle est faite par le médecin conseil de la sécurité sociale. C'est le médecin de l'assurance maladie, quoi.
OK.
Pour être reconnu invalide, il y a une condition assez précise. Il faut avoir perdu au moins 2/3 de sa capacité de travail ou de gain. C'est l'article L341-1 du Code.
2/3, c'est conséquent.
Oui. Et ensuite, il y a même 3 catégories d'invalidité prévues par la loi qui dépendent de ce qu'il reste comme capacité. Et ça va déterminer si la personne a droit à une pension d'invalidité et son montant.
D'accord. Et alors, le lien avec l'employeur dans tout ça, est-ce qu'il faut lui dire ?
Eh bien, c'est là un point essentiel. L'invalidité, c'est un statut personnel vis-à-vis de la Sécu. Le salarié n'a aucune obligation légale d'en informer son employeur.
D'accord.
Ne s'impose pas au médecin du travail. Le médecin du travail reste libre de juger si la personne est apte ou non à son poste.
OK. Donc, invalidité, capacité générale de gain, gérée par la Sécu, décision du médecin conseil, pas d'obligation d'informer l'employeur. C'est clair. Alors, si on passe à l'inaptitude, là, on change de registre, j'imagine.
Exactement. On change complètement de logique. L'inaptitude, ça vient du Code du travail. Ça concerne la relation entre le salarié et son employeur.
Et là, on parle bien du poste actuel.
Oui, très spécifiquement du poste de travail occupé par le salarié dans l'entreprise. C'est le médecin du travail, cette fois-ci, celui qui connaît l'entreprise et les postes, qui va déterminer s'il y a inaptitude ou pas.
Et comment il décide ? Juste sur l'état de santé ?
Pas seulement. Bien sûr, l'état de santé est central, mais le médecin du travail doit aussi faire une étude du poste de travail lui-même et des conditions de travail dans l'entreprise. Il peut même faire appel à d'autres membres de son équipe pour ça. C'est une évaluation très concrète. Est-ce que ce salarié peut faire ce travail dans ces conditions ?
D'accord, c'est beaucoup plus ciblé. Et là, j'imagine que l'employeur est directement impliqué.
Ah oui, totalement. Si le médecin du travail déclare un salarié inapte, ça déclenche une obligation pour l'employeur. Il doit chercher à reclasser le salarié.
Reclasser, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire chercher un autre poste dans l'entreprise qui soit compatible avec l'état de santé du salarié et les recommandations du médecin du travail. L'employeur doit vraiment faire cette recherche de manière sérieuse et loyale.
Et si ce n'est pas possible, s'il n'y a pas de poste ?
Si le reclassement est impossible, ou si le salarié refuse les postes proposés qui correspondent pourtant aux préconisations, alors ça peut malheureusement conduire à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
D'accord.
Et une précision, être déclaré inapte à un poste donné dans une entreprise spécifique, ça ne veut pas dire qu'on est inapte pour toujours et partout pour ce métier-là. Les conditions de travail ailleurs pourraient être différentes et permettre l'exercice du même métier.
C'est logique. Donc, si on résume, la grosse erreur à ne pas faire, c'est de penser qu'un salarié déclaré invalide par la Sécu est automatiquement inapte à son poste de travail.
Absolument. C'est le piège. L'invalidité ne rend pas inapte. Et l'inaptitude ne rend pas invalide. Ce sont vraiment deux régimes distincts.
Avec des acteurs différents.
Oui. Médecin conseil pour l'invalidité, médecin du travail pour l'inaptitude.
Et des conséquences différentes.
Exactement. Pension d'invalidité d'un côté, obligation de reclassement pour l'employeur de l'autre.
Donc, pour faire simple, invalidité égale capacité générale de gain, c'est la Sécu. Inaptitude égale capacité au poste actuel, c'est le Code du travail et l'employeur.
C'est parfaitement résumé. Ce sont deux voies parallèles, quoi. Ceci dit, même si les statuts sont distincts légalement, les sources qu'on a consultées insistent sur l'importance d'une bonne communication entre les médecins.
Ah oui.
Entre le médecin traitant, le médecin conseil, le médecin du travail.
Oui, voilà. Bien sûr, toujours avec l'accord du salarié. Mais quand ces médecins échangent des informations pertinentes, ça permet une meilleure prise en charge globale de la personne, même si les décisions d'invalidité et d'inaptitude restent indépendantes. D'accord. Une coordination utile pour le salarié au final. Bon, je crois que c'est beaucoup plus clair maintenant. Invalidité, inaptitude. Deux choses bien distinctes.
C'est ça.
Et pour terminer, peut-être une petite ouverture, on n'a pas parlé de la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Comment ce troisième élément administratif s'articule avec l'invalidité et l'inaptitude? Ça pourrait être intéressant de voir comment tout ça influence le parcours professionnel.
Oui, tout à fait. Comment ces différents dispositifs interagissent pour le maintien en emploi, c'est une vraie question.
Voilà de quoi poursuivre la réflexion. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. C'est la fin de notre exploration pour aujourd'hui.